Béni soit Dieu qui nous permet d'être là encore cet après-midi en sa sainte présence et devant sa bonne parole. Nous parlions hier soir de l'illustration des temps de la fin avec le cyclone Irma. Eh bien, les choses se poursuivent encore, puisque vous n'êtes pas sans savoir ce qui est arrivé au Mexique ces heures passées avec un tremblement de terre d'amplitude 8 qui certainement, on n'a pas les statistiques encore, a dû faire beaucoup de dégâts sur le plan matériel et sur le plan humain. Et nous en parlions avec les frères il y a quelques instants. Je pense que nous sommes incontestablement dans une accélération de l'histoire. Il y a des moments où on a le sentiment que Dieu est sur son trône et que rien ne se fait, que les choses se poursuivent ainsi. Mais Dieu arrive dans l'histoire et subitement les choses s'accélèrent. Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus a parlé des signes concernant l'annonce de son retour, il a dit ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Or, le mot qui est employé dans le texte parle de la souffrance que la future maman éprouve jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et les sœurs qui sont ici et qui sont mamans d'un ou de plusieurs enfants savent que plus le terme de la naissance arrive, plus les douleurs sont fortes et plus elles se rapprochent. Et c'est ce mot-là que Jésus emploie quand il parle des signes de son retour. C'est-à-dire que plus nous allons nous approcher du retour de Jésus, plus les douleurs au niveau de la planète entière vont être fortes et plus elles vont se rapprocher. Et nous sommes en train de vivre cela. Et c'est pourquoi nous parlions hier soir de la nécessité d'avoir la connaissance, l'intelligence des temps pour savoir ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons réouvrir, si vous le voulez bien, le premier livre des Chroniques au chapitre 12 et nous allons relire tout d'abord le verset 23e. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Et nous allons lire au verset 32. Parmi ces hommes-là, des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, examiner attentivement l'Écriture pour découvrir qu'il y a déjà quelque chose d'Issacar en nous et il y a aussi quelque chose que nous devrons, avec l'aide du Seigneur, posséder. Vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez que Jacob a eu 12 fils. Issacar est le 9e dans l'ordre d'arrivée. Issacar est le 9e fils de Jacob. Et vous savez que Jacob a eu 2 épouses, plus les 2 servantes qui lui ont été données comme épouses. Donc au nombre des 4, il y a eu Léa. Et Issacar est un fils de Léa, le 5e. Et vous savez également par l'Écriture qu'entre Rachel et Léa, Jacob a fait une différence. Il préférait Rachel. Ce qui fait que Issachar est né de celle qui était la moins aimée. Quand l'enfant est né, donc son cinquième fils, elle a considéré, au travers de circonstances que je ne prendrai pas le temps de rappeler cet après-midi, que la naissance de son fils était une récompense. Quand son fils est né, elle a dit « ça, c'est ma récompense, c'est mon salaire ». Et elle lui a donné le nom d'Issachar. Or, Issachar signifie « récompense, salaire ». Et j'ai pensé à nous. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose d'Issachar en chacun de nous. Parce que notre naissance, je parle de la nouvelle, notre régénération, notre conversion est une récompense. C'est un salaire, pas le nôtre, mais celui qui a été le moins aimé, de celui qui a été rejeté, celui dont la parole de Dieu nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. L'âme de Jésus a travaillé sur cette terre au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Mais le résultat du travail de son âme a été le fait qu'il verra une postérité. Et chacun de nous qui nous sommes convertis au Seigneur Jésus, qui nous sommes repentis de nos péchés et qui lui avons donné nos vies, nous constituons chacun pour notre part le salaire de Jésus. Mon frère, tu es la récompense de Jésus. Ma sœur, tu es la récompense de Jésus. Il a quitté le ciel, il a donné sa vie sur la croix, il a combattu le diable jusqu'au bout. Le Saint-Esprit a pu agir dans ton cœur pour te convaincre de tout cela et tu es devenu un enfant de Dieu, tu es le salaire de Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'Issachar dans ta vie. Alors vous pensez bien qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre n'importe comment. Je suis le salaire de Jésus. Je suis la récompense de Jésus. Je suis le fruit de son œuvre à la croix et j'ai donc besoin de réfléchir au temps dans lequel je suis. J'ai besoin que par l'action du Saint-Esprit, il y ait en moi la connaissance pour le discernement des temps afin que je connaisse ce que j'ai besoin de faire et ce que j'ai besoin d'être. La seconde chose que je voudrais partager avec vous et qui va nous amener à relire tous ces versets passionnants d'hier soir, à partir du verset 24, nous lisons jusqu'au verset 37, c'est la liste des tribus de tous ceux qui sont venus jusqu'à Hébron pour détourner la royauté de Saül vers David. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6 800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7 100. Des fils de Lévi, 4 600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3 700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3 000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1 000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000, et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Alors je vous l'accorde, une telle lecture n'est pas particulièrement passionnante, et on pourrait dire au Seigneur, mais à quoi ça sert tout ça ? Tous ces chiffres, nous sommes au 21e siècle avec nos problèmes personnels, familiaux, problèmes d'église, soucis dans le ministère. Qu'est-ce que c'est que tous ces versets ? J'ai refait mon petit compte en prenant un papier pour être sûr de ne pas me tromper. Et je vais vous redire les choses. Sur le nombre de ces hommes qui sont allés à Hébron. Judas, 6 800. Siméon, 7 000. Lévi, 4 600 plus 3 700, si vous avez bien fait attention à la lecture. Benjamin, 3 000. Éphraïm, 20 800. Demi-tribu de Manassé, donc de l'autre côté du Jourdain vers Israël, 18 000. Zabulon, 50 000. Nephtali, 1 000 chefs, plus 37 000 hommes. Tribu de Dan, 28 600. Aser, 40 000. Et alors, le Saint-Esprit fait un compte global des deux tribus et demie de l'autre côté du Jourdain. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, 120 000. Vous allez me dire, mais vous avez oublié Issacar. Ben oui, exprès. 200. 200. Plus leurs frères. Le Saint-Esprit n'a même pas voulu nous dire combien il y en avait. Certainement que c'était loin, bien loin d'atteindre le nombre de toutes les autres. Voyez-vous, il ne faut jamais lire la Bible comme ça, à la légère. Dieu a des choses à nous dire dans tous les versets. Issacar, 200. Quelle est, me semble-t-il, l'une des leçons du Saint-Esprit ici ? J'ai pensé à ce texte de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens. Si vous avez la parole de Dieu, vous allez pouvoir lire ce texte avec moi, le suivre. dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 12. Il va comparer l'Église, alors ça peut être l'Église universelle, mais dans son fonctionnement, on comprend mieux l'Église locale. Donc ce qu'il va dire là, si vous voulez, c'est votre Église ici. Il compare l'Église locale à notre corps. Donc l'Église, il y a l'image du corps. Alors la tête, bien sûr, c'est Christ, c'est pas le pasteur. La tête de l'Église, c'est Christ. Et nous lisons ici, à Corinthiens 12, verset 12, « Car comme le corps est un, c'est-à-dire c'est un ensemble, le corps est un, c'est tout un ensemble, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Comprenez par là son Église, son fonctionnement, les membres par rapport, les uns par rapport aux autres, et leur relation avec la tête qui est Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Regardez votre corps, c'est pas un seul membre, il y a plusieurs membres, il est formé de plusieurs membres. Et il y a des choses très simples dans la Bible pour nous faire comprendre les choses. Paul dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Imaginez le pied qui se dise, oh mais moi je suis trop bas, je touche la terre, j'aurais préféré être une main. D'ailleurs, elle est plus près de la tête. Et c'est rare qu'on marche sur une main, on marche surtout sur les pieds. Donc, si j'avais été une main, d'accord, mais moi je suis un pied, non, je ne suis pas du corps. Mais si, tu es du corps. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Alors la suite, on a envie de sourire. Si tout le corps était œil, vous imaginez si on était seulement un œil, et qu'on soit là cet après-midi, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine, qu'un œil assis sur une chaise. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? On pourrait voir, mais on ne pourrait pas entendre, on ne pourrait pas marcher, etc. S'il était tout ouïe, imaginez qu'on soit seulement une oreille, où serait l'odorat? Comment est-ce qu'on sentirait les choses? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui place les membres dans le corps comme il a voulu. C'est vrai pour notre corps, on est une machine magnifique. Mais c'est vrai aussi pour l'Église. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ce serait une folie que l'œil dise ça. Comment est-ce qu'on entendrait? Comment est-ce qu'on parlerait? La tête ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Alors on se rend bien compte que dans la pensée du Seigneur pour l'Église, nous sommes dépendants les uns des autres. Et je vais revenir à la tribu d'Issacar parce que je n'en suis pas si loin. Mais je vais vous prendre encore un exemple pour le corps, pour vous faire comprendre les choses. Subitement, j'ai faim. Ça, ça ne vous arrive jamais à vous. Il y a donc quelque chose, un signal dans le corps, depuis l'estomac jusqu'à la tête, qui indique que le corps a faim, il a besoin de nourriture. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Avec mes pieds, je vais m'approcher de la table. Avec mon nez, je vais être capable de sentir les bons aliments. Ensuite, mes yeux vont me permettre de voir ce qu'il y a dans l'assiette. Ensuite, avec mes mains, je vais pouvoir accéder à la nourriture et la porter à ma bouche. Et à ce moment-là, tout le système digestif va se mettre en place pour que ces aliments pénètrent dans mon corps et se transforment en énergie. Vous aurez compris que pour un simple fait d'avoir faim, tout le corps se met en mouvement et les membres ont également besoin les uns des autres. Issachar, qu'est-ce que tu fais à Hébron ? 200 ? Mais regarde, il y en a qui sont 50 000. Les autres là qui sont venus de très loin, 120 000. Qu'est-ce que vous faites là, les fils d'Issachar ? 200 ? Vous êtes insignifiants en Israël. La leçon, en tout cas l'une des leçons du Saint-Esprit ici, c'est que dans l'Église, nous ne devrions jamais mépriser celui ou celle qui nous paraisse le plus insignifiant ou la plus insignifiante. Nous pouvons regarder certains comme infiniment petits, des gens dont on peut se passer. Oh, la petite sœur une d'elle, elle est brave, mais bon. Le frère Intel, oui, d'accord, le frère Intel, mais enfin, bon, le frère Intel, il est petit comme ça, hein. Et le Saint-Esprit va nous apprendre avec le temps que parfois les petits ont reçu des grâces et des dons particuliers qui sont de la plus haute importance pour les autres. À un œil, c'est beaucoup moins gros qu'une jambe. Mais je vous défie de voir avec une jambe. À un nez, c'est beaucoup plus petit qu'un pied. Mais essayez de marcher avec votre nez. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises ? Pas ici, mais partout ailleurs. Pour que nous méprisions des petits, ils sont le salaire de Jésus-Christ. Ils sont Issachar. 200, c'est pas ton affaire. Tu es 50 000, béni soit Dieu, ils sont 200, c'est pas ton affaire. Ils ont le droit d'être là aussi, parce que c'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, ils viennent de loin, de très loin, on l'a dit hier soir, et ils sont là aussi pour transférer la royauté à David. Et à l'autre côté de la vérité, c'est que, mon frère, tu peux te sentir trop petit. Ma sœur, tu peux te sentir trop petite. Et tu te dis peut-être au fond de ton cœur, mais je suis tellement insignifiant, tellement petit. Est-ce que je peux recevoir des grâces de la part de Dieu ? Est-ce que je peux être utile à son Église ? Bien sûr que oui. C'est un corps, l'Église, dans lequel chaque membre, aussi petit soit-il, à sa place et sa fonction. L'apôtre Paul peut paraître dans l'histoire de la première église un géant de la foi. Il a été arrêté, persécuté, battu, emprisonné. Et il y a des juifs qui prennent une résolution. Ils sont une quarantaine et ils ont décidé de jeûner, de s'abstenir de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ils sont morts de faim, d'ailleurs. À moins qu'ils soient revenus sur leur engagement. Mais ils préparaient un guet-apens. Et on a un petit gars, là, un petit gars,
Je ne sais pas quel âge il avait. La Bible dit un jeune garçon. Le neveu de Paul. Ce gars-là, il n'a jamais bâti d'église. Il n'a jamais été docteur, prophète, apôtre. Un petit gars. Le neveu, il entend parler du guet-apens. Dans le corps, c'était l'oreille. Il a entendu parler du guet-apens. Alors il va dans la forteresse, il va informer l'un des chefs militaires. Il dit bouge pas. Et d'abord il va informer son oncle Paul. Il dit voilà, attention tonton, parce que il y a un guet-apens, tu vas mourir. Alors Paul appelle le centurion et il dit mais mène ce jeune homme vers le tribun, il a quelque chose à lui dire. Donc vous connaissez la suite de l'histoire, le petit neveu raconte toute l'affaire. On prend toutes les dispositions et Paul s'en va vers Césarée. Vous ne pouvez pas envoyer un ange, Seigneur ? Il a bien envoyé un ange pour Pierre dans la prison. Ben non, Dieu fait comme il veut. Amen. Alors parfois, il délègue un ange. Il doit faire quand même pas mal de kilomètres dans les galaxies pour arriver jusqu'à notre Terre. Puis parfois, il se sert d'un petit gars. Un petit gars, un Issachar. Et je dis que c'est encourageant pour chacun de nous. Nous ne sommes pas petits aux yeux du Seigneur. Nous ne sommes pas insignifiants aux yeux du Seigneur. Et nous pouvons dire cet après-midi, Seigneur, je suis peut-être de la tribu d'Issachar finalement, sur le plan spirituel. Eh bien, je veux m'attacher de tout mon cœur à tes plans, à tes voies, et cet après-midi, je ne m'occupe pas des autres, je ne veux pas ambitionner des places, je ne veux pas jalouser, je ne veux pas jouer des coudes pour arriver à une place, pas du tout. Je te livre ma vie, fais avec moi ce que tu veux, là où tu veux, comme tu veux. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin, et voir avec vous dans cette espèce de catalogue des tribus d'Israël qui sont allées établir David comme roi, les caractéristiques de tous ces hommes. Autrement dit, quelle race de croyants dans les temps où nous sommes va établir la royauté de Jésus-Christ ? Quelle race de croyants Jésus attend-il ? Avec quelle église Jésus a-t-il fixé un rendez-vous dans ces temps de la fin pour établir sa royauté ? Je lis au verset 23 des hommes armés pour la guerre, parce que dans ces temps de la fin, la partie de l'Église va être la plus difficile à jouer de toute l'histoire. Nous le disions hier soir, l'Église, le diable est descendu vers la terre animé d'une grande colère. Et l'Église va devoir livrer dans les heures et les jours qui viennent certainement le plus grand combat de toute l'histoire. Et la race de croyants que Jésus attend, ce sont des hommes et des femmes armés pour la guerre. La parole de Dieu me dit dans Éphésiens 6, 11, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je crois que le Seigneur va, ça n'engage que moi, mais je vous le dis avec force, le Seigneur va pousser une église qui n'a rien à faire des armes spirituelles. Le Seigneur n'a rien à faire avec ce genre d'église-là. Il attend une église faite de soldats, des hommes, des femmes qui ont compris l'enjeu, qui sont prêts à payer le prix, des hommes et des femmes armés pour la guerre et qui vont dire « Seigneur, l'heure est sérieuse ». J'ai besoin de prendre toutes les armes pour tenir ferme dans les temps difficiles qui arrivent. Ils se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre de l'Éternel. Ça n'a pas été une initiative personnelle, une improvisation. J'aurai l'occasion d'en parler peut-être dans les prochaines réunions, si on en a le temps. Mais ce sont des hommes qui ont été obéissants à Dieu, qui sont entrés dans le plan de Dieu à l'heure de Dieu, des hommes qui ont été décidés à se soumettre à l'ordre de l'Éternel. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, parle des croyants comme de ceux qui ont été élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Nous aimerions participer à l'aspersion du sang de Jésus en gommant ce qui précède. Mais ce n'est pas possible. Il faut que nous vivions dans la sanctification de l'Esprit, dans l'obéissance au Seigneur, et c'est à ce titre-là que le sang de Jésus nous purifiera de tout péché. La race de croyants que Jésus attend pour établir sa royauté, ce sont des croyants obéissants, qui vont agir selon l'ordre de Dieu, qui vont mettre leurs pieds sur la parole de Dieu comme sur le roc sur lequel ils vont pouvoir construire leur vie. Au verset 24 et au verset 34, il est question d'hommes portant le bouclier et la lance. Vous savez bien, par l'épître aux Éphésiens, ce que représente le bouclier. L'apôtre Paul dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Jésus a dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Aujourd'hui, j'y viendrai peut-être ce soir, mais aujourd'hui dans nos églises, des chrétiens ne croient même plus au retour de Jésus. Des pasteurs se désintéressent du baptême du Saint-Esprit, tuent la vie de l'Esprit dans nos églises, s'attaquent aux dons spirituels, parce qu'aujourd'hui, on veut être religieusement correct. Il ne faut plus que les réunions dérangent les gens, choquent les gens. Alors, il faut renier le surnaturel divin qui pourrait choquer les gens. Dans certaines églises, on ne pratique même plus l'imposition des mains aux malades dans l'évangélisation, parce qu'à la tête, on n'y croit plus. On justifie les morts en disant « Dieu fait comme il veut ». S'il a repris la sœur une telle, c'est parce qu'il le voulait, c'est sa volonté. C'est tellement facile de cacher notre incrédulité avec des jongleries théologiques. Amen. Qui n'ont plus de fondement biblique. Mais le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu qui m'a guéri de rhumatisme articulaire aigu et d'un souffle au cœur à l'âge de 11 ans. C'est le Dieu qui a fait un miracle dans le corps de ma femme. C'est le Dieu qui a fait des miracles dans le corps de mes enfants. Et le Christ dans lequel je crois, c'est le Christ qui guérit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est que tous nos cancers qu'on enterre dans nos églises aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'en est assez de tout ça? Dieu a quelque chose à nous dire. Quelle race de croyants le Seigneur Jésus attend-il à Hébron? Je mets Hébron entre guillemets. Des hommes armés du bouclier. Des hommes qui vont retrouver la foi, et la foi dans toute la parole de Dieu, la foi dans tout ce qu'est Dieu pour notre vie. Seigneur, permets-moi de te faire cette prière des premiers disciples, augmente-nous la foi. Quel est l'un des moyens de se fortifier dans la foi, mais la parole de Dieu? Et pourquoi est-ce que nos églises faiblissent dans la foi? Parce que nous sommes en train de perdre du terrain à grande vitesse par rapport à la parole de Dieu. Les chrétiens, pour ceux qui savent lire, lisent de moins en moins la Bible. Aujourd'hui, on veut de la musique dans nos réunions, de la danse. Aujourd'hui, on veut du folklore. Et j'ai le témoignage de l'un de mes anciens, comme vous dites chez vous, qui était il y a quelques années en arrière à une convention européenne de Pentecôte, dans une capitale européenne, et avant la pleine réunion, comme on l'appelle, il y a toujours l'avant-réunion qui est faite de chorales, de chants, de chorales, de chants. Et le stade était plein de milliers de gens. Mais quand est venu le temps de la parole de Dieu, et je le tiens de mon ancien qui était présent, il a vu le stade se vider, des centaines et des centaines de chrétiens quittaient le stade. Quand il s'est agi des orchestres rock chrétiens, des vedettes évangéliques, les jeunes étaient là, acclamant la musique. Quand il s'est agi de la parole de Dieu, ça n'intéressait moins de monde. Et on se dit, Seigneur, comment ça se fait? Nos mains se posent sur la tête des malades et on les enterre. Pourtant, Seigneur, on a mis de l'huile. Est-ce que ce n'était pas la bonne? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une huile venant d'Israël?
Amen.
J'ai entendu ça aussi. Hein?
Amen.
Qu'il fallait faire l'onction d'huile avec de l'huile d'Israël.
Amen.
Il y en a même qui ramènent la terre d'Israël dans des petites bouteilles. On n'est pas loin de la Vierge Marie, hein, moi je vous le dis. Ah non, mais riez pas.
Amen.
On frôle l'idolâtrie, là, on frôle l'idolâtrie. Dieu veut que nous revenions à une foi saine, à une foi puissante. Seigneur, donne-moi d'être armé du bouclier. La lance, alors je vais parler de l'épée dans le Nouveau Testament. Paul dit, prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, le bouclier et l'épée, c'est pas loin, hein, parce que l'un dépend de l'autre. La foi vient de la parole de Dieu. Vous n'enfoncez pas un bouclier dans le ventre de Miguel. C'est pas destiné à ça, un bouclier. L'épée, oui. Et vous ne vous protégez pas de flèches enflammées avec une épée, mais avec un bouclier. Alors, le bouclier, c'est la... Quand on est droitier, hein, le bouclier, c'est la main gauche, et l'épée, c'est la main droite. Et quand l'apôtre Paul, dans une autre épître, parle des armes offensives et défensives de la justice,
oui,
c'est pas ça qu'il dit. Le texte grec dit les armes de la main gauche et de la main droite. Il faut que, à Hébron, nous soyons dans la communion de notre roi, armés pour la guerre, armés de la foi, et la foi va me permettre de me défendre contre tous les traits enflammés du malin. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est pas l'épée, c'est la foi dans l'épée. Et puis, l'épée de l'esprit, parce que cette épée-là, la parole de Dieu, nous mène à la victoire. Je lis au verset 25. Homme vaillant à la guerre, vaillant. Des hommes forts, courageux. Et dans cette même épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit, au reste, frères, fortifiez-vous par la force toute-puissante de Dieu. Il y a parfois des prières étonnantes qui se télescopent quelque part dans l'espace avec un ordre de Dieu. Nous envoyons vers le ciel cette prière, Seigneur, fortifie-moi. Et du haut de son trône, Dieu dit, fortifie-toi. Alors, je ne sais pas à quel moment ça se rencontre, mais il y a un problème. Non, mais c'est vrai que nous pouvons demander à Dieu de nous fortifier. Il y a des textes dans l'Écriture pour ça. Mais je pense que dans certains domaines, l'exaucement de nos prières est plus facile que vous ne le croyez parce qu'il suffit de nous exaucer nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous fortifier. Il y a des moments où nous ne pourrons pas le faire dans certains domaines, il faudra que ce soit Dieu qui nous fortifie. Mais il y a plein de domaines où c'est à nous de le faire. Et au fond, on le sait bien, hein.
Il
ne faut pas tricher, on le sait bien. Quand ça nous revient et que c'est à nous dans certains domaines de nous fortifier par la force toute puissante de Dieu. Paul dit aux Corinthiens dans sa première lettre, au reste, veillez demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Et les sœurs disent ça, c'est pour mon mari. Le texte grec dit soyez viril. Non, je parle dans le domaine spirituel, les sœurs doivent être des hommes. Les sœurs sont appelées aussi à faire preuve de virilité spirituelle. C'est inconcevable de penser que dans l'Église, il est normal que les frères soient vaillants et forts et que les sœurs soient faibles. Non, non, cette exhortation nous concerne tous ici. Vaillants à la guerre. Parce qu'il y a des sœurs qui doivent chercher les enfants à l'école. Formidable, on peut être là jusqu'à 9h ce soir, on enchaînera avec la réunion suivante. Verset 29. Dans les fils de Benjamin, ah c'est intéressant ça. Vous allez bien m'écouter parce que j'ai des choses importantes à vous dire là-dessus. Des fils de Benjamin, 3000. Mais qui c'étaient ces 3000 ? Frères de Saül. Or, on est en train de détourner la royauté de Saül vers David. Et il y a des gens dans la tribu de Benjamin qui sont très courageux et qui se disent, c'est notre famille, c'est notre famille. Mais on a compris que Dieu a rejeté Saül. Alors maintenant, c'est l'heure de prendre position, de faire un choix, ça coûte, mais on va faire le choix, on va se détourner de la famille de Saül que Dieu rejette, et on va aller à Hébron pour oindre notre vrai roi, le roi selon le cœur de Dieu, David. La seconde partie du verset 29 est très intéressante, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux, les fils de Benjamin, étaient restés fidèles à la maison de Saül. Et oh là, il y a eu un schisme, il y a eu une cassure dans la famille, et la famille qui a fait le bon choix, qui a pris la bonne direction, était minoritaire. C'était un petit groupe. La plupart des autres étaient restés fidèles à ce que Dieu rejetait. Et eux, les 3000, sont allés à Hébron. Permettez-moi quelques secondes de vous parler du triste exemple de Jonathan, le fils de Saül. Jonathan, depuis le combat contre Goliath, s'est attaché à l'âme de David. Il l'a aimé profondément. Il lui a donné sa ceinture, son épée, son manteau. Il y a là comme un symbole de consécration et il y a eu une communion intime, intense pour le futur roi. Et Jonathan a su, à partir de ce moment-là, il a su au fond de son cœur que son père était rejeté et que le roi qui régnerait sur Israël, ce serait David. Et vous savez comment à plusieurs reprises, Jonathan se mouille face à son père pour prendre la défense de David, au point que Saül dira, mais c'est à ta honte et à la honte de ta mère que tu prends de telles positions. Puis à un moment donné où David doit quitter le royaume persécuté par Saül, c'est une longue période de souffrance, d'isolement, de rejet. Et là, à un moment donné dans une forêt, c'est un petit peu un rendez-vous secret, clandestin, Jonathan retrouve David. Et Jonathan dit, mais je sais que tu vas régner. Mon père est rejeté, mais je sais que tu vas régner. Alors, quand tu vas régner, bien, je serai à tes côtés dans le royaume. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils pleurent. David s'en va. Mais alors, Jonathan, qu'est-ce que tu fais là? S'il doit régner lui, pourquoi tu ne vas pas derrière lui?
Ouais.
C'est curieux. Il sait où est la vérité.
Amen.
Il sait où est l'onction. Il sait où est l'approbation de Dieu. Il le sait, il le croit.
Et il retourne vers son père, dans un système que Dieu a rejeté,
dans un système qui n'a pas l'onction, qui l'a perdu, dans un système que Dieu est en train de vomir. Et tout en étant de retour dans ce système-là, il dit un jour, je vais régner.
Non, tu ne régneras pas, Jonathan.
Je vais te dire ce qui va t'arriver dans quelque temps. Tu vas mourir avec ton père sur la montagne de Gilboa. Parce que la race de croyants que David attend à Hébron, ce sont des hommes qui ont le courage de prendre position. Le système est mauvais, le système est rejeté, on le sait, on le sait. Alors n'y retourne pas, n'y retourne pas. Attache-toi au plan de Dieu, à l'onction, à la croix, au vieil évangile, parce que ce sont ces croyants-là que Jésus attend dans sa royauté. Démas a abandonné l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Du temps de Jésus, certains hommes ont cru en lui, mais parce que on avait dit que si quelqu'un croyait en Jésus, il serait exclu de la synagogue, alors ils n'en ont pas fait publiquement l'aveu. Exclu de la synagogue? Eh bien, sois exclu de la synagogue! Qu'est-ce que ça peut faire d'être exclu par les hommes?
Amen.
L'essentiel, c'est d'être approuvé de Dieu.
Amen.
Parce que quel est le système qui a mis la croix hors de la porte? C'est justement ce système qu'il fallait fuir. Pourquoi est-ce que Jésus a souffert hors de la porte? Parce qu'il a été mis sur le calvaire, sur le Golgotha, par ce système-là. On n'a pas planté la croix dans Jérusalem, mais hors de la porte, pour bien montrer qu'il était rejeté. Le Seigneur a dit, par la plume de l'apôtre Jean, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas du monde, mais vient de Dieu. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et puis je vais aller vite. Il y a au verset 30 des hommes de renom. Hommes vaillants, gens de renom. La parole de Dieu dit que la réputation vaut mieux que les grandes richesses. La parole de Dieu dit que la bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Timothée a été introduit dans le ministère pastoral par Paul, non pas parce qu'il rangeait bien les chaises, non pas parce qu'il chantait bien, mais parce qu'il, entre autres, recevait un bon témoignage de plusieurs églises locales. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous comprenez dans quel sens je le dis, d'être quelqu'un de renom, d'avoir une bonne renommée. Démétrius, à l'inverse de Diotrèphe, dans la troisième épître de Jean, avait le témoignage de tous et de la vérité. Et ça, c'est bon quand un frère a le témoignage de toute son église. Jean de renom. Quand Saul de Tarse s'est converti et qu'il s'est trouvé là après 3 jours de jeûne, encore aveugle, n'étant pas baptisé d'eau, n'étant pas baptisé du Saint-Esprit, mais Jésus avait préparé toute une voie pour lui, quelle sorte d'homme le Seigneur a-t-il envoyé vers Saul de Tarse? Un farfelu? Un instable? Un homme à histoire? Non. Il a envoyé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs rendaient un bon témoignage. Homme de renom. Parmi tous les critères pour être ancien dans l'Église, il faut recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, pas seulement de l'Église, mais avoir un bon témoignage au milieu des païens, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans le piège du diable. C'est curieux la façon de faire dans certaines églises, mais là encore, ça ne se passe pas chez vous, ça. Des gens quittent une église, je dis dans mon histoire là tout de suite, une bonne église. C'est-à-dire qu'ils ne quittent pas l'église pour des raisons valables. Ils quittent leur église et ils vont dans une autre église. J'appelle ça changer de crèmerie, change de boutique. Et là-bas, on ne s'occupe pas de savoir si le petit frère, il a créé des histoires ou pas. On ne s'occupe pas de savoir s'il sent bon, si c'est un homme de renom, si c'est le bon parfum. Pour le récupérer et avoir une personne de plus, et comme on sait que derrière lui, il y a 25 personnes de la famille qui peuvent venir, on lui déroule le tapis rouge, le gars, il a créé des problèmes dans l'église, la semaine d'après, il joue de la guitare dans l'autre église. Non, mais vous dites amen parce que ça se passe chez les sédentaires. Je sais bien que chez vous, ça ne se passe pas. Quand le frère ne conduit pas certaines réunions et ne prêche pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas cette race-là qui va se retrouver à Hébron pour la royauté. Ce sont des hommes de renom. Des hommes qui sentent bon. Qui ont une bonne réputation. Et qui font du bien. Et puis il y a ceux qui ont été nominativement désignés. C'est-à-dire qu'on connaissait le nom de chacun d'eux. J'aime bien ça. Parce que quand le Seigneur Jésus nous parle du bon berger, il dit, il appelle par leur nom chacune de ses brebis. Dans l'Église, on n'est pas noyé dans la masse pour faire un petit peu ce qu'on veut d'une façon un peu floue. Non, non, il faut qu'on soit désigné par son nom. C'est-à-dire que Dieu me connaît personnellement et il faut que l'Église me connaisse aussi. Non pas par orgueil, c'est pas ce que je veux dire, vous me comprenez. Mais oui, on peut faire confiance au frère un tel, à la sœur un tel, oui, on les connaît. Et puis le Seigneur les connaît en premier, il y a quelque chose de très personnel. Et puis il est dit dans certains versets, versets 33, 35, 36, 37, en état d'aller à l'armée, muni de toutes les armes de guerre pour le combat, prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Et nous disons amen. Donc il y en a un qui vient en réunion de prière. Vous m'avez eu. Parce que je pensais que vous alliez tous dire amen. Et je vous aurais dit à ce moment-là, mais alors pourquoi vous n'êtes pas à la réunion de prière? Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que vous y êtes. Prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Prêt à livrer bataille. Timothée, souffre avec moi pour l'Évangile, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. J'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, ça existait encore, 16 mois en Allemagne, dans un régiment disciplinaire, enfin ancien disciplinaire, hein, parce que j'étais un mauvais garçon. Donc j'ai fait 16 mois là-bas. Figurez-vous que j'étais fiancé à ce moment-là, avec celle-là. Ben, je ne l'ai pas emmenée. Parce qu'elle n'avait pas sa place là-bas. J'étais soldat. Je n'ai pas emmené mes parents chez qui je vivais. Je n'ai pas emmené la nourriture de la maison. Il a fallu se farcir la nourriture de la cantine. J'ai pas emmené mes costumes, À ce moment-là, j'étais candidat, j'avais un beau costume, chez les sédentaires, le cerveau nous apprend à être bien, comme ça, il faut être... Bon. Non, ils m'ont mis des trucs kaki, là. J'ai pas emmené mes chaussures, ni en cuir, ni vernis, tout ce que... On m'a mis des gros machins aux pieds. Je me suis pas levé alors que je voulais, mais au son du... etc., etc. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que je suis en état d'aller à l'armée? Ça va te coûter, mon frère. Hébron, c'est pas du tourisme. Parce qu'il y a les Philistins et parce qu'il y a aussi les faux frères, ceux qui sont attachés à Saül. Faut savoir tout ça. Il y a deux sortes d'ennemis au moins. Le monde et la fausse église. Qui va de plus en plus s'afficher comme fausse église. Donc la vie chrétienne, c'est pas du tourisme. C'est un champ de bataille. C'est la guerre. Et le Seigneur attend des hommes et des femmes armés pour la guerre. Alors, tout ce que je viens de vous dire là concerne tous les autres. Mais il n'est pas parlé de tout ça pour Issachar. Hein, c'est vrai? Remarquez ça. Pour Issachar, c'est... Ils avaient l'intelligence des temps. Alors j'ai réfléchi dans mon laboratoire. Et je dis quand même, pour aller à Hébron, je voudrais vous dire ceci, c'est pas écrit, mais... Je pense que vous serez d'accord de le croire avec moi. Issachar possédait quelque chose que les autres avaient. Ils ne sont pas allés, sous prétexte qu'ils avaient l'intelligence des temps, ils ne sont pas allés comme ça à Hébron la fleur au fusil. Non. Soyez persuadés qu'ils avaient aussi le bouclier et la lance. Bien évidemment qu'ils étaient des hommes vaillants. Bien évidemment qu'ils avaient les critères des autres, et ils sont allés prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Seulement Issachar avait quelque chose que les autres n'avaient pas, et quelque chose que les autres ont eu besoin d'avoir par eux, parce qu'ils ont bénéficié de ce qu'avait la tribu d'Issachar, et qu'eux n'avaient pas. La connaissance du discernement des temps. Alors là-dessus, deux choses et j'ai fini. Les fils d'Issachar n'étaient pas dispensés d'avoir les qualités des autres, bien au contraire. Et je le dis, l'intelligence des temps ne leur aurait pas suffi pour transférer la royauté de la vie. Imaginez qu'ils soient arrivés devant l'ennemi, sans armes, en disant « Mais nous avons l'intelligence des temps, et c'est David qui va régner, le Philistin, il aurait fait ça, tac, et l'intelligence des temps, boum !» Vous comprenez ça? Avoir l'intelligence des temps, c'était formidable, mais ça ne dispensait pas les fils d'Issachar de posséder ce que les autres avaient. Et je voudrais vous dire ceci, parce que c'est l'histoire de certains croyants et c'est l'histoire de certains ministères qui ont fait naufrage. Les grâces exceptionnelles, les dons surnaturels de Dieu, la vie surnaturelle du Saint-Esprit ne doit pas nous dispenser de nous établir et de demeurer sur les bases fondamentales.
Oui, amen.
Oui à l'intelligence des temps,
amen.
Mais oui pour le reste avec.
Amen.
J'entends par là la foi, la parole de Dieu, la justice, le salut, la vérité, le zèle, la vie de prière intense. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de naufrage au niveau de certains ministères, au niveau de certains foyers? Parce que quand certains ont reçu de la part de Dieu des dons magnifiques et ont commencé sous prétexte d'avoir des résultats formidables, et ils en avaient, quand ils ont commencé à être légers sur les bases spirituelles fondamentales, l'homme avait du succès quand il a imposé les mains, alors il a moins prié. L'homme avait du succès dans l'évangélisation, les âmes pleuraient au pied de l'estrade, et il a commencé à avoir des attitudes avec les femmes qu'il n'aurait pas dû avoir. Excusez-moi, mais il n'y a pas de tabou parce que ça se passe. Alors il faut le dire. Même si vous ne me réinvitez pas, je vous le dis. Certains ont eu du succès, et le succès était là, et c'était incontestable. Il y avait des dons magnifiques au travers de leur ministère, et ils ont été invités chez un tel, des bons repas, le vin, et beaucoup de vin. Et je pourrais vous parler d'hommes qui ont marqué l'histoire par un ministère d'évangélistes extraordinaire et qui ont fini alcooliques. Parce que, je resitue les choses dans notre contexte, il y avait l'intelligence des temps. Et à un moment donné, on a dit, ben voilà, c'est l'intelligence des temps, pourquoi un bouclier, pourquoi la lance, quoi. Dans notre vie avec Dieu, il faut que nous aspirions au surnaturel divin, on en parlera, mais il faut rester sur les bases.
Amen.
Il faut rester sur les bases. Et la deuxième chose, c'est que les autres tribus qui avaient le bouclier, la lance, le cœur résolu, qui étaient prêts à combattre, etc., etc., avaient besoin des fils d'Issacar. Ils avaient besoin de ce que ces hommes possédaient et qu'ils n'avaient pas. Ce n'était pas l'heure d'être jaloux. Ce n'était pas l'heure pour Judas de dire « Comment ça se fait que nous n'avons pas l'intelligence des temps et que ces 200-là, ces petits 200-là, prétendent l'avoir ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? C'est l'heure, c'est l'heure. C'est le moment de Dieu. On a reçu cette intelligence des temps. Oui, c'est l'heure de Dieu. Il faut voir David. Issacar avait ce qu'il n'avait pas. Et l'heure dans nos églises n'est pas à envier les places des uns des autres, les dons des uns des autres, à nous combattre les uns des autres, parce que lui, il a ce que j'ai pas, et elle a ce que j'ai pas, ou... Non, non, non. L'heure est à nous unir, à mettre en commun les grâces que nous avons reçues, les dons que nous avons reçus, parce que l'intelligence des temps doit nous amener à être unis à Hébron, pour dire, c'en est assez de Saül. Maintenant, c'est David qui va régner sur le peuple de Dieu. Amen. Amen. On va prier.